Et je voudrais m'arrêter avec vous sur quelque chose de simple, mais plus le temps passe et plus ça me semble tellement important. Je voudrais m'arrêter sur quelque chose qui m'a interpellé concernant la vie de Jésus. C'est vrai que quand on lit les évangiles, bien entendu, la première chose qui nous attrape, c'est les miracles, évidemment. Quand on voit tout ce que Jésus a fait, on est émerveillé. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que quand même les disciples, les douze, ils ont quand même vécu des trucs forts, quoi. Hein. Mais ce n'est pas de ça dont j'aimerais parler. Il y a quelque chose d'autre qui émane de la vie de Jésus, sur lequel je voudrais insister ce soir, parce que c'est aussi important, quand on prend la peine de regarder, de méditer, c'est aussi important que les miracles. C'est la vie de prière de Jésus. La vie de prière de Jésus. Et en réfléchissant là-dessus, en prenant quelques textes, et encore que quelques-uns, j'ai été impressionné de voir comment il y a une insistance sur la vie de prière de Jésus. C'est même, j'allais dire, dingue. D'ailleurs, nos yeux se focalisent parfois sur certaines choses, et puis il y en a d'autres, on les voit moins, et pourtant elles sont aussi importantes. Et la vie de prière de Jésus, elle est là pour nous interpeller. Et en même temps, elle est là pour nous amener à nous poser cette question ce soir. Je me la pose, parce que je suis comme vous, hein. Dans quel état est ma vie de prière? Dans quel état est ma vie de prière? Le but, ce n'est pas de culpabiliser, ce n'est pas de juger, parce qu'on est tous pareils. Hein, mais plus j'avance et plus je me rends compte que ce dont on a le plus besoin, c'est d'avoir une communion avec Dieu, une relation avec Dieu, parce que c'est ça la prière. Hein, c'est tellement important. Vous vous souvenez que c'est quand même Jésus qui a dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Et j'ai toujours dit, moi ça m'a interpellé, c'est des petits détails. Jésus a pu dire « Mais quand tu pries ?» Il n'a pas dit « Mais si tu pries ?» Parce que si Jésus avait dit « Mais si tu pries », ça aurait pu être considéré comme une option, vous voyez. Mais il dit « Mais quand tu pries ?» Comme pour montrer que ça doit être quelque chose de normal. Ça doit être quelque chose de quotidien, vous voyez. « Quand tu pries ?» Parce que c'est normal, parce que c'est ça la vie avec Dieu. Voyez. Et ce soir, je voudrais qu'on s'arrête sur quelques textes où on voit que combien c'est important. Hein. Par exemple, regardez, on va pas mal rester dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 15. Et on va voir des choses toutes simples, mais je voudrais les rappeler ce soir parce que c'est important. Et dans une ou une autre de ces situations, on peut s'y retrouver et de réaliser que quelque part, ce qui va nous maintenir à flot, c'est ça. C'est avoir une relation avec Dieu. Si on n'a pas de relation avec Dieu, si on n'a pas de communion avec Dieu, mais au détour d'une tempête, d'un coup de vent, on va être emporté, quoi. On va être emporté. Voyez. Alors regardez, Luc chapitre 5, verset 15, il est dit « Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, ça m'interpelle ça, et lui, parce que c'est lui qui est important, hein. Ce n'est pas les autres, hein, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. C'est un verset tout, j'allais dire, tout simple, tout bête, hein, sur lequel on pourrait passer. Mais c'est tellement important. Et lui, il se retirait pour prier. Voyez. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? Je me suis posé la question, tu aurais fait quoi, toi, hein? Parce que vous avez remarqué que le contexte ici, il est extrêmement important. C'est un contexte de succès. C'est un contexte propice aux applaudissements. Bravo, super, Jésus est là, waouh, wow, c'est tout ce que vous voulez. Voyez, et dans ce contexte-là, qu'est-ce que fait Jésus? Il ne se laisse pas griser par le succès. Voyez, il aurait pu, hein, voyez, le succès, c'est... Voyez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se retire et il prie. Voyez. Et je crois que déjà, là, pour nous, il y a quand même quelque chose d'important. Alors on ne va pas parler de succès, hein, parce que le succès on ne le cherche pas, ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais je pense que l'application spirituelle qu'on peut en faire pour nous par rapport à l'attitude de Jésus, et je vais le dire de cette façon-là, mon frère, ma sœur, quand tout va bien, ayons une vie de prière, soignons notre vie de prière. Hein. Heureusement que tout ne va pas toujours mal, hein. Je crois qu'il y a des moments aussi où ça va bien, et peut-être ce soir on pourrait dire, bon... Il y a toujours un truc pour nous contrarier, ça c'est clair. Mais bon, je veux dire, dans l'ensemble, merci Seigneur si ça va bien ce soir. Hein. De ce côté-là, ça va bien, là ça va, la santé ça va, le travail ça va, ça se passe bien, la famille ça va, etc. Ben, si tout va bien, ben je crois que c'est, il faut soigner sa vie de prière encore plus. Parce que ça nous aidera justement pour le jour où ça, peut-être ça ira moins bien. Voyez, et je crois que c'est important de le réaliser, de faire un petit peu ce parallèle. Jésus, dans un moment de succès où tout allait bien, où son ministère débutait et puis était en train de prendre de l'ampleur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire et il prie, parce qu'il sait que, quelque part, il connaît la suite. Voyez, il sait ce à quoi il est appelé et ce vers quoi il va. Voyez, et je crois que de la même façon, quand on passe par des périodes de calme, où ça va, où tout va bien, merci Seigneur, et tant mieux, hein, tant mieux, hein, gloire à Dieu. Mais il faut soigner sa vie de prière. Hein. Et je crois que ça c'est important. Et surtout pas se dire, bon, ben, ma foi, tout va bien, hein, on va se la couler douce. Non. Si tout va bien ce soir, ben, il faut réaliser, et Jésus nous le montre au travers de son attitude, que quelque part, c'est important de prier. D'autant plus que, regardez, on tourne juste une page, hein, moi je tourne une page, chapitre 6, Luc chapitre 6, verset 11. Il est dit ceci, Luc chapitre 6, verset 11, ça va s'afficher derrière. Hein, il est dit ceci, alors là, ça fait suite à la guérison de cet homme qui avait la main sèche. Rappelez que Jésus a un peu repris les religieux qui étaient là. Il a été affligé devant l'endurcissement du cœur de ces gens. Il va le leur dire d'ailleurs. Et verset 11, il est dit, ils furent remplis de fureur. C'est fort, hein. Et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Et notez bien, en ce temps-là, c'est-à-dire là, à ce moment-là, quoi, hein, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. On va s'arrêter là. Hein. Ici, le contexte, c'est plus le même. Hein. C'est plus les applaudissements, là. Hein. Là, c'est l'opposition. Vous voyez, comme quoi, ça peut changer très vite. Hein. Et c'est pour ça que, finalement, on voit au travers de la vie de Jésus que ben, c'est ça la vie. Il y a des moments, ça va, il y a des moments tout d'un coup, derrière, pouf, c'est un peu moins bien, et puis des hauts, des bas, vous voyez. Mais qu'est-ce que fait Jésus encore là, dans ce moment d'opposition? Vous noterez qu'il ne va pas chercher à argumenter avec ses opposants, il ne va pas chercher quelque part à essayer de trouver une solution pour essayer de s'entendre, faire en sorte que ça aille mieux. Il ne va pas chercher une nouvelle méthode de communication pour se dire, je vais essayer de trouver une méthode de communication pour peut-être faire mieux passer mon message. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire et il prie. Voyez, et il prie. Voyez, et je crois que ça c'est important de réaliser que quand on passe par des temps d'opposition, mais voilà, encore une fois, mais la meilleure des choses que nous puissions faire, c'est de prier. C'est la meilleure chose. Et je crois que c'est important de le dire parce que souvent, ce n'est pas notre premier réflexe. Hein. D'ailleurs, regardez un petit peu plus loin, Luc 22, 44, là aussi, contexte d'opposition, il a dit, étant en agonie, alors c'est plus le même contexte, mais voilà, c'est, la pression est forte, quoi. Vous voyez, c'est pas évident, étant en agonie, qu'est-ce qu'il fait? Il priait plus instamment. Et ce instamment, il est important parce que, eu égard à ce qui est écrit avant, étant en agonie, il aurait pu prier moins. Non, mais là, il prie plus instamment, vous voyez. Donc, je crois que c'est important de réaliser que, quelle soit l'opposition que nous pouvons rencontrer, qu'elle soit physique, la santé, qu'elle soit financière, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle, et on peut en connaître en tout genre, mais c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de prier. Voyez. Mais on le fera d'autant plus que si on l'a fait aussi quand tout allait bien. Voyez. Parce que je ne crois pas à la prière roue de secours, vous voyez, tout d'un coup il y a un problème. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Jésus dit, mais quand tu pries, il ne dit pas, mais si tu pries. Parce que si tu pries, ça veut dire qu'on se sert de la prière quand tout va mal, ou quand ça ne va pas. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut l'envisager. Voyez. Mais quand tu pries, que ça aille bien, que ça marche bien, ou que ça marche moins bien, qu'il y ait de l'opposition. Et Jésus nous le montre par son attitude, l'opposition est là, mais lui qu'est-ce qu'il fait? Ben, il prie. Alors bon, bien sûr, lui, il a passé toute la nuit à prier Dieu. Alors, on ne va pas faire une doctrine de ça. En se disant, il faut prier toute la nuit. Non, si vous priez toute la nuit, tant mieux. Bon, à mon avis, le matin, vous allez avoir un petit souci. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Hein, mais l'attitude, elle est là. Seigneur, c'est peut-être compliqué, c'est dur, mais c'est important dans ces moments-là d'avoir une communion avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. Dans la présence de Dieu, on se fait toujours du bien. Et je pense à le psaume 73 à Asaph, qui lui passait par un moment d'opposition aussi. L'opposition, elle était différente. C'était une opposition dans ses pensées. Parce que ça aussi, J'ai parlé de financiers, professionnels, tout ça, mais quand on connaît une guerre dans les pensées, vous voyez, quand, et ça, c'est, on a tous connu ça. Hein, il y a une guerre dans nos pensées, pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on sait qui est écrit dans la parole, il y a les promesses de la parole, et puis de l'autre côté, il y a la réalité du terrain. Et ça, ça crée parfois dans nos pensées une guerre. Et c'est ça que connaît Asaph. Hein, il ne comprend pas que, alors que lui, il essaie de marcher avec Dieu, à côté, il y a des gens qui font... tout et n'importe quoi, et pour eux tout va bien. Et dans ses pensées, ça passe pas. Jusqu'à ce qu'il pénètre dans les sanctuaires de Dieu. Et là, dans ce moment d'opposition, eh bien, Dieu va le bénir. Et vous noterez, je l'ai souvent dit dans le psaume 73, la situation, elle n'a pas changé. Hein. Ce qui a changé, hein, c'est son être intérieur, c'est son cœur. Voyez, c'est le fait d'être dans la présence de Dieu. C'est pour ça que si peut-être on passe par l'opposition, mais c'est là qu'il faut venir dans la présence de Dieu. Et souvent, c'est le contraire qu'on fait. Ouais, je le dis pour moi aussi. C'est souvent là que vous voyez, on laisse tomber, on baisse les bras. Voyez, regardez, donc je continue le texte qu'on a lu tout à l'heure, Luc 6, verset 12. On a lu: en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Et ça, c'est très intéressant parce que suite à sa nuit de prière, qu'est-ce que fait Jésus ? Il choisit. Les 12 qui vont l'accompagner tout au long de ces 3 ans de ministère. Et je crois que ça nous rappelle là quelque chose d'important, c'est que face à tous nos choix, toutes nos décisions, mais il faut la prière. Il faut la prière, voyez, parce que ça devient de plus en plus difficile et les choix que nous faisons, ils nous engagent. Ils nous engagent. Un choix, par principe, ça nous engage, voyez. Et combien de fois, et peut-être vous aussi, ça vous est arrivé, on est venu, mais frère, il faut, pasteur, priez pour. Et quand vous dites, mais vous grattez un peu, vous dites, mais attendez, c'était pas là qu'il fallait prier, c'était avant. Parce que maintenant, vous voyez, c'est un peu, des fois on fait les choses à l'envers, il faut prier pour un tel ou une telle parce que ça va pas. Et puis, oui, mais c'était pas là qu'il fallait prier, c'était un peu avant, quoi. Parce que, vous voyez, devant nos choix, devant nos décisions, parce que quelque part, ça va impliquer des choses. Seigneur, je veux venir dans ta présence, je veux prier. Connaissez l'histoire de Lot, hein, s'il avait peut-être mis son choix, son orientation dans la prière, peut-être qu'il aurait choisi différemment. Je crois que c'est important. C'est évident aussi quand on voit le choix de Jésus, là, quand il a choisi les 12, parce que je n'ai pas lu la suite. Hein, les 12 qu'il a choisis, franchement, moi, je ne les aurais pas choisis. Hein. Vous non plus. On aurait peut-être été à l'école biblique de Jérusalem, ou je ne sais pas trop où, mais on n'aurait pas pris cela, quoi. Enfin, quand je dis cela, je suis gentil. Hein. Vous voyez ? Mais ça nous montre pourquoi on a besoin de prier. Oui, parce que quelque part, nos choix, nos décisions, bon, elles sont... Pff, des fois, on pense bien faire, on se trompe. Hein. Je pense à Samuel, quand il a fallu qu'il éloigne le nouveau roi. Et vous rappelez le texte, hein, Samuel 16. Quand il a vu Eliab, il va dire, c'est lui. Et il va même dire, certainement, loin de l'Éternel est ici. Certainement, il est sûr de lui. Vous voyez ? Pourtant, Samuel, excusez-moi, c'est pas rigolo, hein. Samuel, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète, c'est relisez la vie de Samuel, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Bon, un peu ses enfants, il a connu quelques misères avec ses enfants, comme quoi, vous voyez, même les plus grands, avec leurs enfants, c'est pas toujours simple, les enfants, hein, voyez. Et lui, il a connu des misères avec ses enfants. Mais à part ça, la Bible nous montre un gars, waouh, c'est le top, quoi. Ben, si Dieu n'intervient pas, il se plante, hein, voyez. Et c'est pas pour rien que la Bible dit « Ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées ». Donc, si ses voix ne sont pas nos voix et si ses pensées ne sont pas nos pensées, mais quand on est devant un choix, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu en penses ?» Parce que moi, je pense que, je crois que, je me dis que, mais ça peut avoir tout le bon sens possible et inimaginable, mais peut-être que toi, Seigneur, tu vois et tu vois la chose différemment. Alors, Seigneur, montre-moi, quoi. Et combien de fois, et ça vous est arrivé, ça m'est arrivé, des fois en voulant bien faire, en pensant bien faire, on pense qu'on a été spirituel et on s'est planté. Donc, Seigneur, montre-moi, et je crois vraiment de tout mon cœur, que si vraiment on laisse toute la latitude à Dieu de nous diriger, il va le faire. Moi, je crois vraiment en un Dieu qui ouvre les portes ou qui les ferme. Si on est vraiment sincère, si on ne met pas Dieu devant le fait accompli, parce que ça... mettre Dieu devant le fait accompli, c'est autre chose. Et, mais si vraiment on est sincère, on dit Seigneur, ouvre, ferme la porte, je crois vraiment qu'il le fait. il va nous diriger. Ça dépendra pas de nous, mais quelque part, il faut prier, quoi. Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu ferais? En tout cas, là, Jésus nous montre l'exemple. Pour les 12 disciples, il a passé la nuit à prier. Franchement, vous pensez que Jésus a besoin de prier? Est-ce que vous pensez que Jésus a besoin de prier? Je me dis, Seigneur. Donc je me dis, si Jésus, qui franchement, alors à plus forte raison nous. Regardez un petit peu plus loin, Luc chapitre 9. Vous connaissez ces textes, hein? Mais quand on les prend les uns dans les autres, on voit la vie de prière de Jésus. Luc chapitre 9, la transfiguration, vous connaissez, hein? Verset 28, Luc 9, verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Vous voyez? Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et là, inévitablement, ça nous ramène à l'Ancien Testament, à ce qui s'est passé dans l'Exode, au chapitre 34, quand Moïse est descendu de la montagne, où il avait passé 40 jours et 40 nuits, et qu'il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Vous avez ça au chapitre 34 de l'Exode. Mais d'ailleurs, c'est assez quand même, enfin, marrant, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais de faire le parallèle avec cet épisode et de réaliser que là, un des deux qui apparaît, justement, bah, c'est Moïse. On le retrouve là, vous voyez, dans le même épisode, quoi. Vous voyez, un petit peu, c'est assez surprenant. Je crois que c'est tout sauf anodin. Mais la leçon spirituelle pour nous, c'est que on est loin de s'imaginer combien on n'imagine pas combien la prière ça influe sur nous. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Oui. Et les autres, ils ont, oh, vous voyez, ils ont été. Moi, je crois vraiment que si on a une vie de prière, une relation avec Dieu, une piété personnelle, ça va influer sur nous, ça va se voir. Pas spécialement quand je dis ça va se voir parce qu'on va être m'as-tu vu, mais on va dire lui, il a quelque chose, quoi. Lui, elle, il a quelque chose, hein, voyez. Et ce quelque chose, c'est un contact avec Dieu, voyez. C'est un contact avec Dieu. Et le résultat de tout ça, c'est que ben, les autres, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus, quoi, voyez. Et je crois que spirituellement parlant, si on se tient éveillé, et il n'y a pas de meilleur moyen pour être éveillé que la prière, eh bien, permettez-moi cette expression, on a plus de chances de voir la gloire de Dieu qu'en ne priant pas. Vous voyez, je crois que parfois, il y a des fois, on veut la gloire de Dieu en se contentant du minimum. Mais ça ne marche pas, quoi. Vous voyez, je crois que ça, c'est important. Regardez, on continue. Regardez, chapitre 22, Luc 22. Vous connaissez ce passage, moi je l'aime beaucoup. Là, cette fois, le Seigneur s'adresse à Pierre. Luc 22, le Seigneur dit, verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Je me suis posé la question, peut-être Pierre aurait pu dire, ah bon, t'as prié pour moi, quand est-ce que t'as prié pour moi? Je ne t'ai pas vu. Seigneur, encore une fois, hein. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et puis un peu plus loin, toujours dans ce même chapitre, on a pris tout à l'heure le verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et ce qui m'interpelle dans ces deux textes-là, c'est que chaque fois, il est question de conséquences derrière. J'ai prié pour toi afin que. Et verset 46, levez-vous et priez afin que. Et la prière, ça a des conséquences. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pas une recette de cuisine, hein. C'est pas une formule magique, hein. On se comprend, hein. Mais c'est parce qu'on ne se rend pas compte combien la prière, la vie de prière, la communion avec Dieu, ça a des conséquences. Et là, ici, il y a deux choses. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Si on veut ne pas défaillir spirituellement parlant, on a besoin d'un contact avec Dieu. Vous voyez ? Parce que franchement, si Jésus a prié pour Pierre dans ce sens-là, Mais je me dis que quelque part, on en a besoin aussi. Hein. Et vous savez que quelque part, ça nous rappelle ce que l'apôtre Paul dira aux Romains, hein, que Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. On a une belle image là, vous voyez. Il intercède pour nous. Et je crois que le Seigneur intercède pour nous, pour que notre foi ne défaille point. Mais comment vous voulez tenir le coup s'il n'y a pas une relation avec Dieu? Moi, on ne peut pas. On a besoin de cette relation, vous voyez, de cette communion avec Dieu pour tenir le coup, parce qu'il y a tellement de choses qui se passe. Et puis, la deuxième conséquence, hein, levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alors là aussi, la tentation. Je pense à cette parole de l'apôtre Paul, fuis les passions de la jeunesse. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'il n'y a pas que la jeunesse. Hein. Quand on voit tout ce qui se passe, il n'y a pas que la jeunesse, franchement. Les tentations, mais alors... ça devient hallucinant. Hein. Et ce, dans tous les domaines. Hein. Et je me dis, mais comment vous voulez qu'on résiste face à toutes les tentations, parce qu'on n'est pas plus forts les uns que les autres. Hein. Ni vous, ni moi. Hein. On peut avoir 10 ans, 20 ans, 30 ans de conversion. Des fois, on a vu des chrétiens qui étaient quand même des statues ou qui avaient des années de conversion tomber comme... Oh, voyez. La tentation, mais pour justement résister à la tentation, eh bien, quelque chose qui va nous aider, bien sûr, la parole, mais avoir un contact avec Dieu. Je crois que ça c'est important, vous voyez. Et la prière va nous aider à ce niveau-là. Et je me rends compte que si Jésus lui-même a été tenté en toutes choses, et moi, ça m'interpelle, en toutes choses. Et en toutes choses, il y a toutes choses. Vous y mettez tout, hein. Parce que souvent, on est un peu pudique, on se dit non. Ben si, en toutes choses, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Mais vous croyez que nous, on va être exemptés de ça? Alors c'est sûr qu'il y a des choses, peut-être, quelqu'un peut avoir une fragilité au niveau de l'argent, un autre ne l'aura pas cette fragilité, ça sera autre chose. On a tous des fragilités, on a tous, vous voyez. Et l'ennemi de notre âme sait très bien où c'est qu'il faut qu'il vienne nous titiller. Il sait très bien que si l'argent, ce n'est pas un problème, ce n'est pas là qu'il va falloir. Quoique, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas veiller quand même. Hein. Vous voyez ? Mais je me dis, si Jésus a été tenté en toutes choses, mais alors à plus forte raison nous. Et c'est là que la prière prend tout son sens. Priez, levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Vous voyez ? Ne tombiez pas, parce que on n'est pas plus forts les uns que les autres. Vous voyez ? Et là encore, on voit que Jésus nous donne un enseignement qui aujourd'hui est tellement important. Quand on voit tout ce qui est mis devant nos yeux, il n'y a plus qu'à se pencher aujourd'hui. Franchement, quand je pense à cette parole qui a été dite il y a des siècles en arrière à Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais alors aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que le Seigneur dirait? Le péché, il est à la porte, il est au-dessus, il est à l'étage, il est partout. Hein, il n'y a pas besoin d'aller loin. Hein. Mais si on ne prie pas, comment vous voulez résister? C'est pas possible. Hein. Et je crois que ça c'est important. Il faut soigner cet aspect de la prière. Je ne vous apprends rien ce soir, mais il faut le soigner cet aspect. Hein. Je peux venir à toutes les réunions. C'est pas un degré de spiritualité, ça. Hein. J'ai connu des gens qui étaient là à toutes les réunions. Ils n'étaient pas spirituels pour un sou. Hein. Quand vous voyez leur réaction, leur attitude. Oh. Vous voyez, je peux venir à toutes les réunions et pas avoir de communion avec Dieu. Voilà, je peux venir à toutes les réunions et pas avoir de communion avec Dieu. Voyez. Maintenant, le fait d'avoir une communion avec Dieu ne fait pas de moi quelqu'un de plus spirituel que les autres. Hein. Il fait de moi juste quelqu'un de normal. Si j'ai une communion avec Dieu, merci Seigneur, de toute façon ça on le sait, hein. Ça c'est entre nous et Dieu. Hein. Si j'ai une communion avec Dieu, il ne faut pas que je pense que je suis plus spirituel que les autres. Hein. Je suis juste normal. Tant pis si vous pensiez être spirituel. Non, vous êtes normal. Si tu as une communion avec Dieu, tu n'es pas plus spirituel. Tu es normal. D'ailleurs, je pense à cette parole, Luc 17, verset 10. Allez, c'est le principe que j'aime bien là, dans ce passage. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, et je pense que la prière, c'est quelque chose que le Seigneur nous demande. Ce n'est peut-être pas ordonné, le Seigneur ne nous oblige à rien. Mais ça fait partie normalement de la vie chrétienne, ça. La communion avec Dieu, la prière. Quand on a fait tout ce qu'il faut... Ben dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Donc si on a une relation avec Dieu, mais on est normal, c'est tout. Il n'y a pas à en tirer une gloire en disant moi je prie, moi ceci, moi cela, moi je suis spirituel. Non, tu es normal, c'est tout. Vous voyez, tu es normal. Voilà. Et moi je me dis Seigneur, moi je je veux pas être au-dessus, ça m'intéresse pas, je veux être normal. Seigneur, avoir une vie de prière, une communion, une piété personnelle, parce que c'est ça qui va nous tenir. C'est ça qui va nous tenir. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui et toute la pression qui est là dans tous les domaines, mais si on n'a pas de vie de prière, mais comment vous voulez tenir? Comment vous voulez tenir? Je pense à un dernier texte, regardez, dans Matthieu 14, vous connaissez Matthieu 14, là aussi, regardez, un autre contexte, mais encore une fois, vous connaissez, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Et là, regardez, j'aime bien la suite, verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Voyez. Là aussi, juste avant, il y avait un moment de succès, mais il y a la tempête qui allait arriver. Et entre les deux, parce que quelque part, la vie c'est ça, on est toujours entre les deux. Des fois ça bascule un peu d'un côté, des fois ça bascule un peu de l'autre. Mais au centre, il faut qu'il y ait la communion avec Dieu. Voyez. Et j'aime ce petit détail, comme le soir était venu. Croyez pas que le soir, il est là, sur le sens spirituel du terme. La nuit vient. Cette nuit, elle vient, elle annonce le retour du Seigneur. Le soir étant venu, il était là seul. Et ça moi, ça m'interpelle parce que quand on y réfléchit, il y a des solitudes qui sont néfastes. Hein. Par exemple, le livre des Proverbes nous dit, hein, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Voyez, ça, c'est une solitude qui n'est pas bonne. Voyez, s'isoler, ça, c'est pas bon. Voyez, mais il y a des solitudes qui sont bénissantes. Et cette solitude-là, que Jésus nous montre là, nous enseigne là, la prière, c'est une solitude nécessaire. On a besoin. Merci Seigneur pour la prière tous ensemble. C'est super, ça fait du bien. Hein, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, ils prient ensemble. Gloire à Dieu, c'est super. Mais ça ne remplacera pas la communion personnelle avec Dieu. Hein. Ça va peut-être pallier un moment, mais à un moment donné, on va vite se retrouver tout nu. Hein. Si on n'a pas de vie de prière personnelle, vous voyez, je pense à celui qui est... Celui qui est parti tout nu là quand on lui a, hein, voyez, mais là aussi il y a tout un message quand vous y réfléchissez, hein, si on n'a pas de vie de prière, hein, au détour d'une situation on va se retrouver, voyez, nu. Voyez, je ne vais pas dire je pensais une expression mais bon, je ne la dirai pas, voyez, mais on a besoin, c'est une solitude qui est bénie, ça, voyez. Et franchement, je réfléchissais à ça, il était là seul, c'est pas facile aujourd'hui, hein. Le portable, vous êtes là, vous commencez à prier, vous avez la jambe, oh là là, purée, ça va être un truc, internet et tout, et les enfants et les trucs, il y a toujours un truc autour, mais c'est dingue quoi, c'est pour avoir un moment, franchement, moi le seul truc que j'ai trouvé, hein, il faut se lever tôt le matin, on est tranquille. Là, vous êtes sûr. En général, là, quand vous levez tôt le matin, il n'y a pas beaucoup de candidats pour venir vous embêter parce qu'eux, ils dorment. Voyez, mais au moins, là, vous êtes tranquille. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Comme je ne suis pas du soir, donc le matin, c'est bon. Mais c'est difficile d'être seul aujourd'hui. C'est difficile parce qu'il y a toujours un truc. D'ailleurs, vous avez remarqué, dans tous les endroits maintenant, on vous met un fond musical, on vous met un truc. Il n'y a pas un moment où vous pouvez être dans le silence. Hein. Enfin, il n'y a pas un moment. C'est pas évident. Hein. Ben nous, il faut qu'on se batte pour avoir ce moment de seul à seul avec Dieu. Sachant que la prière, c'est aussi, vous le savez, je vous apprends, c'est pas toujours parler. Hein. C'est pas monologue, hein. C'est aussi un moment d'écouter. Il faut écouter, voyez. Voilà ce que le Seigneur a à nous dire. Moi, je crois que c'est bien d'y ajouter aussi la lecture de la parole en même temps. Hein, parce que le Seigneur va vous conduire dans sa parole. Hein. Voyez, ça c'est important. Voyez. Mais que Dieu nous aide à avoir ces seuls à seuls, comme le Seigneur. Il était là seul. Si Jésus en a eu besoin d'être seul avec son Père, mais on a besoin d'être seul avec notre Père. On a besoin d'être seul avec lui. Voilà. Et ton Père qui est là, dans le lieu secret, hein, il te le rendra. Alléluia. Alors, que Dieu nous aide. C'est que quelques rappels ce soir, mais la vie de prière de Jésus, elle est aussi importante que sa vie publique où il faisait des miracles, il faisait tout un tas de choses. Et je crois même que c'était la conséquence. Tout était lié, quoi. Voyez, Et dans notre vie avec Dieu, c'est pareil. On a besoin de ce seul à seul avec Dieu. Hein, parce que ça va nous aider, ça va nous tenir. Et même quand parfois on passera un moment où on ne comprend rien, ben Seigneur, je veux m'attacher à toi. Hein. Je veux compter sur ta grâce. Et là, le Seigneur va renouveler nos forces spirituelles. Ça ne s'explique pas. C'est pas A plus B, mais là, le Seigneur renouvelle vos forces. Et vous trouvez la force de continuer. Et de continuer, de faire un pas de plus. On dit, mais comment tu fais? Mais comment tu y arrives? Comment j'y arrive? Le Seigneur renouvelle mes forces. Hein. Voilà. Seigneur renouvelle. Alors que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide au travers de la vie de Jésus. C'est-à-dire, Seigneur, bon, je me sens petit. Je ne t'arrive pas à la cheville. Hein. Mais Seigneur, je veux avoir cette communion avec toi. Je veux avoir cette communion avec toi. La piété, c'est pas un mot aujourd'hui qu'on emploie souvent, mais la piété est utile à tout. À tout, dira Paul. La piété, le contentement. Mais, vous voyez, l'exercice corporel est utile à peu de choses, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'entretenir. Hein, mais la piété, elle, est utile à tout. Alors Seigneur, je veux avoir cette communion avec toi. D'ailleurs, vous regarderez dans le psaume 12, hein, y a David qui fait ce constat, « Seigneur, les hommes pieux s'en vont. » Vous lirez ça, psaume 12. Les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent du pays. Eh bien, Seigneur, que tu puisses nous trouver fidèles et qu'on puisse être ces hommes et ces femmes pieux, mais dans le vrai sens du terme. Alors que Dieu nous aide. Alléluia. Seigneur.